bébé, papa, maman. Aujourd'hui fait sa première dent, aujourd'hui goûte son premier sang. Papa, maman, bébé, amour, couché dans des draps de velours. Papa, maman, bébé, amour, regarde se coucher le jour.
Il est 16h précise, bonjour à tous les auditeurs, vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM dans la grande région de Victoria. Gros menu info, aujourd'hui dans l'émission, nous revenons bien sûr sur l'attentat terroriste commis contre le centre culturel islamique de la ville de Québec. L'ordre habituel de l'émission est un petit peu changé aujourd'hui. Je vous reviens dans quelques instants avec un bloc spécial sur les événements tragiques d'hier. Ce sera suivi du Radio-Journal des Nations Unies et des autres actualités du jour. Alexis Gagnon au micro, la production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire. Bienvenue dans l'émission Le Débrief, petit bloc spécial sur les événements tragiques survenus hier à Québec. On fait le point sur la fusillade qui a éclaté à la grande mosquée de Sainte-Foy, près de Québec. Donc revenons d'abord sur les faits. Rétablissons tous les faits. Une fusillade de masse survenue hier, 29 janvier 2017, au Centre culturel islamique de Québec, qui est aussi appelé la Grande Mosquée de Sainte-Foy. On compte 6 morts et 8 blessés, dont 6 dans un état grave. Donc ce sont les faits. À l'heure actuelle, l'enquête évidemment se poursuit. Il y a eu différentes interventions d'hommes politiques et de personnalités publiques. Rappelons le déroulement d'abord. Donc dans la soirée d'hier, dimanche 29 janvier, vers 19h45, heure locale, heure de la prière, un homme armé a ouvert le feu sur les quelques dizaines de fidèles réunis au Centre culturel islamique de Québec avant de s'enfuir puis de se rendre en appelant la police à proximité de Québec. Il était alors non loin du pont de l'île d'Orléans en banlieue de Québec. Donc après une course-poursuite assez brève, le suspect s'est rendu. Ce sont les faits actuellement donc à propos de ces événements. Le Centre culturel islamique de Québec avait déjà été pris pour cible dans le passé. En juin 2016, une tête de porc avait été déposée devant cette mosquée durant le Ramadan. Quelques semaines plus tard, le centre avait reçu une lettre islamophobe. La mosquée était assez régulièrement surveillée par la police, dit-on, et des caméras de surveillance y était installé. Le dernier bilan, je le disais, fait état de 6 morts et 8 blessés, dont 6 dans un état grave. Les personnes tuées étaient âgées entre 39 et 60 ans. Alors voilà pour les faits connus. Des éclaircissements et des infos supplémentaires continuent d'affluer à l'heure actuelle. Alors on va faire une petite revue de presse des actualités entourant cette affaire. On va commencer par un article qui a paru dans la presse. L'identité des 6 victimes de l'attentat de Québec est connue. 6 personnes ont péri hier soir, donc dimanche 29 janvier, à la Grande Mosquée de Sainte-Foy, lors d'un attentat attentat sans précédent perpétré à Québec. Les autorités québécoises ne confirment l'identité d'aucune des victimes pour l'instant. Depuis l'apparition de cet article, leur identité a été confirmée. Donc, allons-y tout de suite. Il s'agit de Azedine Soufiane, qui était propriétaire d'une boucherie dans la région de Québec. Il était originaire du Maroc. Il s'agit par ailleurs de Khaled Belkacemi, qui était professeur à l'Université Laval, Karim Hassan, qui était originaire d'Algérie. On avait ensuite Aboubakar Tabti, qui était pharmacien, ainsi que Mamadou Tanou Bari, un informaticien originaire de la Guinée. Une autre victime originaire de la Guinée, Ibrahim Bari, qui était fonctionnaire à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Il était aussi originaire de la Guinée. Donc, 6 victimes et, comme je le disais, des blessés qui sont dans un état grave. On a 8 blessés, dont 6 en état grave. Et bien sûr, on continue de suivre cette situation. Alors, du côté des colonnes du Huffington Post, fusillade, à Québec, un seul auteur présumé, l'autre individu interpellé a été relâché. Donc, il y a effectivement eu une confusion au tout début de cette affaire concernant l'identité du suspect. Un autre suspect était envisagé par la police. Il a depuis été innocenté. Il est entendu en qualité de témoin, tout simplement. Donc, le principal suspect serait un étudiant en sciences politiques. L'Université Laval a d'ailleurs confirmé que le suspect était étudiant à la faculté des sciences sociales aujourd'hui. Un seul des 2 jeunes hommes interpellés après la fusillade hier dimanche dans la mosquée de Québec, fusillade qui a fait 6 morts, est soupçonné d'être l'auteur présumé de l'une des pires attaques contre la communauté musulmane perpétrée dans un pays occidental. L'horreur et l'incompréhension dominaient au lendemain de la tragédie dans laquelle 6 fidèles réunis au Centre culturel islamique de Québec sont tombés sous les balles au moment de la dernière prière du jour. Donc ça, c'est le reportage de Huffington Post dont je vous lis quelques lignes. Interpellé alors qu'il sortait de la mosquée juste après la fusillade, un jeune étudiant canadien d'origine marocaine, Mohamed Kadir, Belkadir, a finalement été relâché, a expliqué un de ses voisins. Donc, il portait secours aux victimes, en fait, et la police a rapidement établi qu'il était plutôt témoin et non suspect. Alors ça, c'est du côté du Huffington Post. Et on indique dans cet article que le suspect principal a été déféré devant un juge en fin de journée aujourd'hui. D'ailleurs, on verra dans une minute les accusations auxquelles le suspect fait face et je vous dirai son nom dans quelques instants. Le tireur était inconnu des services policiers jusqu'à la tragédie et la police se refuse pour l'instant de se prononcer sur ses motifs. Voilà, alors il s'agit d'Alexandre Bissonnette, le principal suspect de la tuerie à la mosquée de Québec, était reconnu pour ses propos identitaires extrêmes sur les réseaux sociaux. Alexandre Bissonnette, le seul suspect de l'attentat dans la mosquée de Sainte-Foy qui a fait 6 morts, s'était fait une réputation sur Facebook en raison de ses commentaires contre l'immigration et les féministes. C'est quelqu'un qui commentait énormément lorsqu'il y avait des publications diverses sur Facebook, a relaté François Deschamps, le gestionnaire de la page du groupe Bienvenue aux réfugiés dans la ville de Québec, un groupe donc qui a eu maille à partir à de nombreuses reprises avec le suspect de l'attentat. Personnellement, a indiqué François Deschamps, donc l'animateur de ce groupe, on a eu de petites discussions animées principalement autour du passage de Marine Le Pen, la chef du parti d'extrême droite, le Front National, une chef politique française. Donc, il avait eu des échanges vifs avec le suspect sur Facebook. Alors, Le suspect s'était fait connaître sur Facebook pour ses positions nationalistes et d'extrême droite. C'est ce qu'on révèle dans cet article publié dans le Journal de Québec sous la plume de Nicolas Lachance. Attentat à Québec, le suspect était reconnu pour ses propos identitaires extrêmes. Et c'est en somme ce que rapporte également cet autre article paru dans le Journal de Québec. Voici ce que l'on sait sur le suspect de la tuerie de la mosquée Alexandre Bissonnette. Introverti, l'unique suspect de l'attentat qui a fait 6 morts à Québec dimanche soir était décrit comme un jeune homme aux idées très à droite. Le jeune homme de 27 ans s'intéressait à la politique. C'est ce qu'il étudiait à l'Université de Laval, en plus d'étudier également l'anthropologie. Éric Debroise le connaissait et a contacté les policiers après le drame pour les informer sur ses idéaux très à droite et ultra-nationalistes, suprémacistes blancs. Alors voilà, c'est rapporté dans le Journal de Québec. On a des témoins qui connaissaient le suspect et qui avaient pu prendre connaissance de ses positions d'extrême droite. Alors, dans un autre article, cette fois publié dans le journal Le Soleil à Québec, Alexandre Bissonnette, solitaire, intimidé et pro-Le Pen. Alexandre Bissonnette était un étudiant en sciences politiques solitaire qui aurait été intimidé à répétition durant son adolescence. Il s'était fait connaître de certains organismes communautaires plus récemment pour ses propos identitaires et anti-féministes sur les réseaux sociaux. Derrière les barreaux depuis hier soir, il a comparu aujourd'hui au palais de justice de Québec entre 16h et 17h, heure locale. Donc on reviendra sur les accusations qui sont portées contre lui. Alors cet article paru dans Le Soleil sous la plume de Guillaume Piedbeuf est assez semblable à l'autre dont je vous ai lu quelques lignes à l'instant. Donc on parle de la position pro Marine Le Pen, pro Front National, anti-féministe, ça semblait être vraiment quelqu'un de radicalisé, et c'était quelqu'un de solitaire. Donc il y a différents témoignages dans cet autre article sous la plume de Guillaume Piedbeuf dans Le Soleil. Autrement, donc on vient aux accusations qui sont portées contre le suspect. Il fait face à 11 chefs d'accusation. C'est rapporté par le site de radio locale Énergie 104 FM. Je vous lis cette dépêche. L'auteur présumé de l'attentat de la mosquée de Québec fait face à 11 chefs d'accusation, 6 chefs pour meurtre prémédité et 5 chefs pour tentative de meurtre. Il s'agit d'Alexandre Bissonnette, 27 ans. Le dernier bilan officiel est de 6 morts et 5 blessés graves, dont 2 dans un état jugé sérieux, mais on ne craint pas pour leur vie. Alors, Alexandre Bissonnette a été arrêté tout près du pont de l'île d'Orléans quelques minutes après la fusillade. Le jeune homme aurait confessé son crime en appelant lui-même le service d'urgence 911. C'est un résident de Cap-Rouge, en banlieue de Québec, nous révèle cet article de la radio locale Énergie 104. Et selon des informations contenues dans sa page Facebook, il a étudié l'anthropologie à l'Université Laval et jusqu'à tout récemment. Donc voilà. Alors, 11 chefs d'accusation, 6 chefs pour meurtre prémédité et 5 chefs pour tentative de meurtre. Sur le portail TVA Nouvelles, on indique que plusieurs signalements avaient été faits concernant la région de Québec dans les derniers mois. Alors, c'est le titre de cet article, « Radicalisation, plusieurs signalements dans la région de Québec dans les mois qui ont précédé la fusillade mortelle à la Grande Mosquée de Québec ». Plusieurs signalements ont été effectués auprès du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, le CPRMV. Plusieurs signalements donc qui concernaient Québec. Le directeur du CPRMV, Herman Okomba de Paris, dit avoir reçu plusieurs indices indiquant une montée de l'extrême droite dans la région de Québec. Depuis 8 ou 9 mois, une trentaine d'appels ont été reçus par les employés du centre concernant cette mouvance. Ça devient dangereux, a déclaré M. Okomba de Paris à TVA Nouvelles. Selon son organisation, 20% des appels sont issus de la région région de Québec depuis quelques mois. Au cours des dernières semaines, des organisations associées à l'extrême droite, comme la Fédération des Québécois de souche, la FQS, Atalante Québec, ainsi qu'une autre organisation appelée La Meute, ont fait des coups d'éclat et distribué des tracts ainsi que des affiches dénonçant l'immigration dans la province. Donc ces associations, toutefois, mentionnons qu'elles ont dénoncé l'acte terroriste commis hier. Néanmoins, ce sont des organisations qui tiennent des propos extrêmes et qui sont dans la mouvance de l'extrême droite. Voilà. Donc ça complète cette revue de presse des faits d'hier, donc de la tragédie survenue hier dimanche 29 janvier. C'est un acte terroriste, a déclaré le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et d'autres faits continuent d'être révélés. On en apprend davantage. On suivra ça, bien sûr, cette semaine dans l'émission Le Débrief. On va se rendre à présent dans le Radio-Journal des Nations Unies, édition du 30 janvier. On va se retrouver de l'autre côté avec les nouvelles du jour. À tout de suite.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal radio de ONU Info. À la une, Antonio Guterres plaide à Addis Abeba pour un renforcement de la coopération avec l'Union africaine. Le Fonds central pour les interventions d'urgence mobilise 100 millions de dollars pour répondre à 9 crises négligées, la plupart en Afrique. Et puis en dossier, nous reviendrons avec Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial de l'ONU en Afrique de l'Ouest, sur le transfert pacifique du pouvoir en Gambie. Le secrétaire général des Nations Unies a donc adressé ce lundi un message de solidarité lors de son allocution au sommet de l'Union africaine réunie à Addis Abeba. Antonio Guterres a alors loué le rôle que joue le continent en tant que terre d'accueil pour les personnes en quête de protection dans un monde où l'on voit tant de frontières se fermer, même dans les pays les plus développés. Se déclarant fier d'être un partenaire de l'Afrique, il a affirmé qu'il était convaincu que nous avons beaucoup à tirer de la sagesse, des idées et des solutions africaines. Le chef de l'ONU qui a souligné qu'il souhaitait tirer le meilleur parti du potentiel du vaste continent et qu'il fallait pour ce faire relever les défis notamment en œuvrant à la prévention main dans la main.
Nous travaillerons avec vous main dans la main. Partout, la stabilité et le bien-être des populations seront mis en danger par un conflit ou la menace d'un conflit. Et nous ne ménagerons aucun effort pour vous apporter plus systématiquement l'assistance dont vous avez besoin pour renforcer vos moyens de lutte contre le terrorisme, et nous nous tenons prêts à vos côtés pour relever le défi plus général de la prévention de l'extrémisme violent. Mais la prévention ne saurait se réduire uniquement au conflit. Le moyen de prévention le plus efficace et la voie la plus sûre pour parvenir à une paix durable est le développement inclusif et durable.
Le même secrétaire général de l'ONU qui a débloqué ce lundi 100 millions de dollars du CERF, le Fonds central pour les interventions d'urgence, pour financer les secours liés à 9 crises négligées, pour la plupart en Afrique. Cette allocation la plus importante de l'année permettra d'atteindre plus de 6 millions de personnes. Isabelle Dupuis.
Les 100 millions de dollars débloqués par Antonio Guterres ciblent des situations de crise où le financement de l'aide est significativement faible en dépit du niveau alarmant de vulnérabilité des personnes affectées. Ces fonds sont donc essentiels pour permettre à l'ONU et à ses partenaires de venir en aide à des personnes qui se trouvent dans une situation désespérée, à commencer par les personnes déplacées, un des défis humanitaires les plus urgents à l'heure actuelle. L'argent du CERF permettra ainsi d'octroyer des soins, des vivres et des abris aux millions de personnes qui ont fui la violence liée à Boko Haram, que ce soit au Nigeria, au Niger ou au Cameroun. Les fonds sont aussi destinés à aider les déplacés et les réfugiés qui se trouvent en Somalie, en Ouganda et en Libye. Et une aide d'urgence pourra également être livrée aux personnes souffrant de malnutrition et d'insécurité alimentaire à Madagascar et au Mali, mais aussi en République populaire démocratique de Corée. À noter toutefois que les fonds débloqués lundi ne permettront de répondre qu'à une petite portion des besoins humanitaires urgents. Face à l'ampleur des situations d'urgence, l'Assemblée générale a d'ailleurs appuyé la recommandation de l'ancien secrétaire général Ban Ki-moon de doubler à 1 milliard de dollars la cible du CERF pour 2018.
Si la nouvelle administration américaine venait à revoir l'usage de la torture, les conséquences seraient catastrophiques dans le monde entier. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Genève, le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, le Suisse Niels Melzer, redoute qu'avec une telle approche, d'autres pays puissent emboîter le pas à Washington. On écoute Niels Melzer au micro d'Alpha Diallo.
Je trouve que c'est très important de clarifier que le waterboarding, c'est vraiment une méthode de torture et que la torture, elle est complètement interdite et qu'il n'y a pas d'exception pour des méthodes que des fois par les Américains sont appelées des enhanced interrogation methods. Il y a eu quand même le press statement du président Trump ou l'interview avec ABC, je pense, où il a exprimé son opinion comme quoi la torture fonctionne, ou la méthode du waterboarding fonctionne. Donc, littéralement, il a dit « it works ». Donc ça, je trouve quand même, c'est quelque chose qui est très très dangereux si on commence à considérer la torture comme une méthode effective pour mener des interrogations.
Enfin, à New York, le 6e forum des jeunes organisé par le Conseil économique et social de l'ONU commence aujourd'hui. Durant 2 jours, sous le thème « Le rôle des jeunes dans l'élimination de la pauvreté et la promotion de la prospérité dans un monde en changement », le forum donc va examiner les moyens par lesquels les jeunes peuvent jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de l'agenda pour le développement durable de 2030. Un rôle des jeunes sur lequel insiste et pour cause Ahmad Al-Hendaoui, l'envoyé spécial du secrétaire général pour la jeunesse.
C'est très important parce que notre monde aujourd'hui est très jeune. La moitié de la population mondiale a moins de 25 ans. Les 2/3 de la population des principaux pays ont moins de 30 ans. Et donc, nous ne pouvons atteindre les objectifs de développement durable, la paix et la prospérité sans engager les jeunes. Aujourd'hui, nous devons nous assurer que personne n'est laissé de côté dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et c'est là que nous devons engager les jeunes et utiliser l'énergie et le talent des jeunes du monde et travailler de concert avec les Nations Unies dans la réalisation des objectifs de développement durable.
Retour sur l'actualité, le récent transfert pacifique du pouvoir en Gambie au président Adama Barrow est un exemple clair du pouvoir de la diplomatie préventive. C'est ce qu'a affirmé Mohamed Ibn Chambas, le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le haut responsable onusien a joué un rôle clé dans les efforts visant à résoudre la crise politique post-électorale dans le pays. L'occasion pour Cristina Silvero de lui tendre le micro et de lui demander d'expliquer les prochaines étapes, mais aussi de revenir sur les leçons tirées de cette réussite.
Dans les immédiats, il faut voir comment nous pouvons aider la coalition à assumer leurs fonctions et assurer une transition pacifique. Donc, nous avons, en tant que Nations Unies, déployé un technicien de gestion de la transition pour aider à assurer des transferts de l'administration de la part de l'ancien gouvernement au nouveau gouvernement. Deuxièmement, il faut continuer de travailler avec la Gambie pour la sécurisation de la Gambie. Et de ce côté, comme vous savez, il y a un déploiement de la force de la CDAO. C'est une importante étape. Et dernièrement, la Nations Unies doit travailler avec le Gambien pour une réconciliation nationale, parce que c'était difficile dans le pays qui était vraiment divisé par l'ancien président qui a voulu rester au pouvoir même quand il était clair qu'il a perdu les élections. Donc un processus de réconciliation est nécessaire en Gambie.
Justement, parlant de réconciliation, des informations circulent selon lesquelles l'ancien président Jammeh serait parti avec des millions de dollars. Sous quelles conditions est-il parti? Bénéficie-t-il d'une immunité?
Pas du tout. La déclaration conjointe faite par la CEDEAO, Union africaine, Nations unies, a insisté que dans tous les cas, il faut l'application de la Constitution et le droit de la Gambie. Et au cas où il y a des choses qui étaient faites dehors la Constitution, il faut que tout le monde, y compris M. Diamé, prenne sa responsabilité.
Quel a été le rôle de la CEDEAO? On perçoit que l'organisation régionale a été clé pour arriver à cette transition pacifique de pouvoir.
Ça, c'était clair. La CEDEAO a joué un rôle clé, un rôle crucial dans tout ce processus. Tout d'abord, c'était la CEDEAO qui a bien insisté pour l'application du protocole sur la démocratie et le bon gouvernance. Et la CEDEAO a bien insisté aussi de surveiller le processus électoral en Gambie. Ils ont envoyé des missions. Moi, j'ai fait une mission conjointe avec le président de la commission de la CEDEAO lui-même. Et puis, la CEDEAO a beaucoup insisté pour le respect des résultats des élections du 1er décembre. Donc, quand le président Diamé a refusé d'accepter ces résultats, c'est la CEDEAO aussi qui était devant tout le monde d'insister que le président respecte. Et sinon, la CEDEAO était prête de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'ancien président démissionne dès que son mandat est fini. Et puis, la CEDEAO, en travaillant avec les Nations Unies, a mobilisé toute la communauté internationale d'assurer que le choix du peuple gambien est respecté. La situation a démontré que si les organisations régionales travaillent avec la communauté internationale, agissent ensemble, ont les mêmes perspectives, nous pouvons beaucoup faire. Et le cas de Gambie, c'est la victoire de la diplomatie préventive régionale.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Donc, on vient d'entendre le radio-journal des Nations Unies. L'info se poursuit dans l'émission aujourd'hui, 30 janvier. Merci de nous écouter également en rediffusion dans la matinée du 31 janvier. On va se pencher quelques instants sur la météo. Nous avons 5 degrés au centre-ville de Victoria actuellement. C'est nuageux, mais il n'y a aucune précipitation. D'ailleurs, il n'y a aucune précipitation dans l'ensemble du sud de l'île de Vancouver. Il y a de la pluie dans le détroit Juan de Fuca, mais c'est à peu près tout. Donc ça reste assez frais. Au cours des prochaines heures, le mercure descendra à 1 degré. Le ciel sera dégagé. Demain, c'est dégagé du soleil avec un maximum de 5 degrés, moins 2 en soirée. Et le soleil reste avec nous une partie de la semaine. On aura du soleil le 1er février ainsi que le 2 février. Les nuages reviendront, selon le pronostic d'Environnement Canada, à partir de vendredi. Donc on a 5 degrés au centre-ville de Victoria à 16h24, je vous le disais, et on va faire une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre le quatuor François Bourassa. La pièce s'intitule Boubacar. On va se retrouver de l'autre côté avec les nouvelles provinciales. À tout de suite. Thank you. Voilà, la pièce se poursuit sur plusieurs minutes. C'est une pièce de 10 minutes, en fait, du quatuor François Bourassa. On n'aura pas le temps d'écouter tout ça. Vous en avez eu une bonne impression. C'est tiré de l'album Indefinite Time. Et c'est le moment de passer aux nouvelles provinciales. On va commencer par une nouvelle qui nous arrive des campus universitaires britanno-colombiens. Et ça concerne notre province, mais ça concerne également la politique internationale. Vous allez voir UBC, l'Université de Colombie-Britannique, ainsi que SFU, Simon Fraser University, sont inquiètes des conséquences du décret américain sur l'immigration. Vous savez, le décret du président Trump anti-migratoire, le décret Trump sur l'immigration suscite l'indignation partout dans le monde, rappelle Radio-Canada dans cet article sur le portail britanno-colombien de la Société d'État. Les recteurs de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, et de l'Université Simon Fraser, SFU, n'ont pas manqué de réagir. Le décret Trump imposé vendredi, il y a quelques jours, suspend l'accueil des réfugiés et des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane aux États-Unis pendant une période de 90 jours. Il s'agit de l'Iran, l'Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. Face à cette décision, le recteur de l'Université de Colombie-Britannique, Santa Ono, a réagi dans une déclaration publiée dimanche, donc hier. Il indique que son établissement est profondément préoccupé par les conséquences de ce décret pour les professeurs, les chercheurs, mais aussi les étudiants du campus. Selon le recteur, la force universitaire et la réputation de UBC dépendent de la liberté du personnel à voyager à l'étranger. Une situation qui pourrait aussi avoir des répercussions sur le recrutement des meilleurs talents, dit-il. UBC a par conséquent créé un groupe de travail pour aider les personnes touchées par la nouvelle interdiction de voyager aux États-Unis. Le groupe, doté d'un budget initial de $250,000, commencera ses travaux immédiatement. Pour sa part, le recteur de l'université Simon Fraser, Andrew Petter, envisage d'organiser un événement pour réaffirmer ses engagements envers la diversité, l'équité et l'inclusion. Selon un communiqué émis par SFU, l'établissement compte près de 450 étudiants, membres du corps professoral, partenaires de recherche et visiteurs internationaux qui proviennent des 7 pays ciblés par le président américain Donald Trump. Donc 450 étudiants, membres du corps professoral et partenaires de recherche, c'est beaucoup quand même. Et ces gens-là voient leur liberté de mouvement handicapée, fortement touchée, peuvent plus se rendre par exemple à des congrès sur des campus américains, etc., etc. Donc cette nouvelle paraît dans le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. UBC et SFU inquiètent des conséquences du décret américain sur l'immigration en date d'aujourd'hui. Autrement, on revient sur la crise sanitaire qui s'est abattue au cours des 2 dernières années sur la Colombie-Britannique. Je vous parle bien sûr des surdoses. Le titre de cet article paraissant sur le portail de Radio-Canada, bloquer le fentanyl venant de Chine, une solution au problème des surdoses. Mais pas la seule solution. Vous allez voir, je vous lis quelques lignes de cet article. Les surdoses liées à la consommation de drogues illicites ont fait 914 victimes en 2016 en Colombie-Britannique, dont une grande partie de ces victimes causées par la surdose de fentanyl. Alors que les autorités essaient de juguler cette crise par des saisies de drogues régulières, les experts proposent d'autres solutions. Alors, il y a d'un côté l'action policière et d'autre les avis d'experts qui proposent plutôt de la prévention, vous allez voir. Donc, la gendarmerie royale commence par dire cet article. La GRC intercepte régulièrement des paquets en provenance de Chine qui contiennent du fentanyl, un opioïde 100 fois plus puissant que la morphine. Donc, le fentanyl est vraiment le principal suspect dans cette crise. La dernière saisie a d'ailleurs eu lieu ici à Victoria et le contenu de ces saisies pesait seulement 1,4 kilos, mais ce petit kilo aurait pu tuer 725 000 personnes. Oui, vous avez bien entendu, 725 000 personnes, rapporte Radio-Canada dans cet article. Donc, il est question des différentes saisies et de l'entente qu'ont conclu ensemble la Chine et le Canada pour freiner cette importation venant de laboratoires sans scrupules situés bien souvent en Chine. Alors, il y a une collaboration entre les deux États qui commence à se mettre en place. C'est encore au premier balbutiement, si vous voulez. Et plus loin dans cet article, on mentionne aussi la solution réside aussi dans la prévention. Alors, selon des professionnels de la santé, le problème ne réside pas tant dans l'approvisionnement, mais plutôt dans la demande et surtout le manque d'options de traitement. Selon les données d'un rapport de 2013 de l'Institut de recherche en santé urbaine de l'Université de Colombie-Britannique, UBC, réduire l'approvisionnement de drogues illicites par l'application de mesures légales ne modifie en rien les quantités de drogues effectivement consommées. Alors, c'est plutôt vain de croire qu'on va régler le problème en effectuant des saisies à l'aéroport. La recherche préconise des actions de prévention médicale, comme les programmes de traitement à la méthadone, la mise en place de centres d'injection supervisés et de centres de traitement de la toxicomanie qui contribuent à la réduction de la consommation de drogues injectables. Donc des mesures sociales, si vous voulez. Donc l'article se poursuit, c'est très éclairant. L'un des co-auteurs d'une étude publiée par UBC indique « La meilleure stratégie consiste à développer davantage les programmes de traitement de la toxicomanie afin de réduire la demande pour ces drogues et constater une réelle incidence sur la taille du marché. » Voilà, donc ça s'intitule « Bloquer le fentanyl venant de Chine, une solution au problème des surdoses ». Et plus loin dans la presse, dans ce bloc nouvelle du jour, j'ai repéré pour vous une nouvelle concernant la visite du premier ministre dans notre province. C'est paru dans le fil de la presse canadienne. En visite à Vancouver, Justin Trudeau ne répond pas aux journalistes. Le premier ministre Justin Trudeau, fort souriant, a salué la foule à Vancouver, mais il ne s'est pas arrêté pour répondre aux questions concernant une série de sujets intéressant les Britanno-Colombiens. Justin Trudeau a participé aux célébrations entourant le nouvel an lunaire, qu'on appelle aussi parfois un peu abusivement le nouvel an chinois, dans la métropole de l'Ouest canadien, donc Vancouver. Le premier ministre a assisté à une cérémonie de bénédiction et à la traditionnelle danse du lion. Et contrairement à ce qu'il avait fait dans d'autres provinces du Canada, dans toutes les autres provinces, il n'a pas participé à une assemblée publique et n'a pas pris les questions. Alors, on s'interroge beaucoup là-dessus. Il y avait certainement des questions concernant la crise sanitaire des surdoses. Et d'autres questions, bien sûr, sur les pipelines qui ont été autorisées par son gouvernement. Alors, le premier ministre s'est plutôt défilé. Il a choisi d'esquiver. Il s'est contenté d'apparaître, de faire acte de présence aux cérémonies du Nouvel An lunaire. Donc, c'est dans les colonnes de la presse canadienne. En visite à Vancouver, Justin Trudeau ne répond pas aux journalistes. Et plus loin dans ce bloc nouvelle provinciale, on rapporte toujours dans la presse canadienne, mais du côté anglophone, que le chef des autorités sanitaires de la Colombie-Britannique fait appel à ses collègues et à l'ensemble du système de la santé de la province afin que des traitements à l'héroïne soient mis en place pour juguler la crise des surdoses sanitaires. C'est en effet son avis, son opinion. Il croit que la mise en place de programmes de prescription d'héroïne synthétisée, donc qu'on appelle en langage médical la diacétylmorphine, donc c'est une version pharmaceutique, si vous voulez, de l'héroïne. Donc le chef des autorités sanitaires de Colombie-Britannique a fait une déclaration publique au cours des derniers jours, indiquant que c'était probablement une voie de solution dans la crise des surdoses que subit actuellement la province. Donc le chef des autorités sanitaires, il s'appelle le docteur Perry Kendall. Vous trouverez ça dans les colonnes de la presse canadienne. Je vous donne le titre anglophone. BC Health Officer Leads Push for European Style Heroin treatment programs, donc des traitements à l'héroïne à la manière de ceux qui sont pratiqués en Europe. C'est ce que voudrait voir le chef des autorités sanitaires de la Colombie-Britannique, Monsieur Perry Kendall. Autrement, plus près de chez nous, dans la ville de Victoria, le conseil municipal a finalement approuvé, après un long atermoiement, des mesures pour faciliter le travail des policiers, policiers qui, bien sûr, sont confrontés en première ligne aux symptômes de la crise des surdoses aux opioïdes ces temps-ci. Alors, le conseil a approuvé une enveloppe de $204,000, près de $205,000 en fait, une enveloppe qui ira à la création de postes de policiers communautaires, donc des policiers qui interviendront sur la place publique auprès des personnes à risque, auprès des sans-abri et des consommateurs de drogues illicites et justement tout ça dans le contexte des surdoses qui ont fait tant de morts l'année dernière. Alors c'est dans les colonnes du média local Victoria News, sous la plume de Pamela Roth, Council approves two more police officers for mental health teams, en date d'aujourd'hui. Et dans le Vancouver Sun, je vous signale cette nouvelle concernant l'érection prochaine dans le centre-ville de Vancouver d'un skyscraper, donc un gratte-ciel, si vous voulez, sous la signature d'un architecte japonais, Kengo Kuma. Ce sera un gratte-ciel de 43 étages et il a vraiment une signature très particulière, ce gratte-ciel. Je vous encourage à aller lire l'article qui paraît dans le Vancouver Sun. Downtown Vancouver to get unique soft skyscraper. Donc une forme qui va vraiment détonner et donner du caractère au centre-ville de Victoria. Ce sera sur la rue Alberni, nous indique cet article du Vancouver Sun. Et l'architecte, en interview avec le média Vancouver Sun, a déclaré qu'il souhaitait que ce gratte-ciel s'intègre à la vie de quartier et à l'environnement urbain de façon harmonieuse. Ce sera à proximité de Stanley Park, nous indique cet article. Alors, beaucoup d'informations sur cette construction qui sera bâtie dans le centre-ville de Vancouver prochainement. Et on termine ce bloc provincial avec un article qui nous arrive d'un média belge, L'Avenir, concernant un couple de Canadiens, de Britanno-Colombiens, qui habitent tout près de chez nous, sur la côte ouest de l'île de Vancouver, mais très isolé en même temps, puisque vous savez que la côte ouest de l'île de Vancouver est très sauvage en majeure partie. Alors c'est un article sur ces deux aventuriers, ces deux originaux excentriques. C'est un couple de retraités, semi-retraités, qui vit sur une île fabriquée, une île flottante, près de Tofino. Donc c'est à environ 45 minutes de bateau de Tofino. Et c'est une île qui a été entièrement aménagée par eux. Elle est équipée d'un phare, elle est équipée d'une serre, il y a une petite maison, des passerelles, et tout ça est flottant dans une petite crique. Et c'est assez intéressant, c'est fascinant. En fait, cet article vraiment vous fait le portrait de ces deux originaux, Wayne Adams et Catherine King. Donc c'est un portrait de leur paradis qu'ils ont appelé Freedom Cove, donc à 45 minutes de bateau de Tofino, une île flottante. C'est dans le média L'Avenir, publié récemment. Vous trouverez ça aisément sur le web. On fait une autre petite pause musicale avec le quatuor François Bourassa et on se retrouve dans quelques minutes avec d'autres nouvelles. L'info se poursuit dans le débrief. 16h44, vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être avec nous jusqu'à 17h. L'info se poursuit et nous allons revenir un petit peu sur la tuerie tragique qui est survenue à Québec hier dimanche. Je vous recommande de vous rendre sur le site ladose.ca si vous voulez vraiment effectuer un suivi des informations concernant cet attentat terroriste survenu à Québec, et attentat qui a causé la mort de 6 personnes. Donc ladose.ca, c'est un agrégateur de nouvelles. Ils ont plutôt créé une page spéciale qui recense en temps réel tous les articles paraissant sur le sujet. ladose.ca. Il y a aussi bien sûr Twitter. Alors on continue de suivre ça, et dans ce bloc je vais vous parler de la réaction de la Maison Blanche à Washington. C'est un article qui paraît dans la presse canadienne. La Maison Blanche cite la fusillade à Québec pour justifier ses propres politiques. Alors c'est une position assez surprenante. On va lire ça. La Maison Blanche a invoqué la fusillade dans une mosquée de Québec pour défendre la nouvelle politique controversée de sécurité nationale du président Trump. Bien que les victimes de dimanche soir soient exclusivement musulmanes, un porte-parole du président américain a utilisé cet événement pour plaider en faveur du décret qui limite les déplacements des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. Donc, le fameux décret qui est quelque part anti-musulman, c'est d'ailleurs le nom que plusieurs ont donné à ce décret, le décret anti-musulman. Alors c'est le porte-parole Sean Spicer qui a fait la manchette pour d'autres raisons depuis l'entrée au pouvoir de Trump, qui a proposé cette lecture des événements dans une conférence de presse. Il a indiqué que le président américain avait téléphoné au premier ministre Justin Trudeau. Le porte-parole a ensuite fait cette déclaration. C'est un rappel terrible de pourquoi nous devons rester vigilants et pourquoi le président prend des mesures pour être proactif, pas réactif. Donc, une déclaration qui semble assez étrange de la part de la Maison-Blanche. Donc, la Maison-Blanche qui cite la fusillade de Québec pour justifier ses politiques anti-migratoires. C'est dans la presse canadienne. Et autrement, toujours à propos du président Trump, encore dans la presse canadienne, Donald Trump pourrait nuire à l'économie canadienne, croit la Banque nationale. Les mesures protectionnistes de l'administration américaine de Donald Trump pourraient retrancher jusqu'à 1,5 point de pourcentage à la croissance du produit intérieur brut canadien, le fameux PIB. C'est ce que croit la Banque nationale, qui a fait état des résultats d'une étude récente. L'analyse note que l'arrivée du président Trump à la tête du gouvernement américain pourrait être bonne pour le secteur énergétique du Canada, mais cet effet positif pourrait être contrebalancé par d'importantes perte du côté des exportations en raison de possibles changements à l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, et de menaces de nouvelles taxes frontalières. Selon le rapport de la Banque nationale, l'imposition d'une taxe américaine de 10% sur les importations à la frontière entraînerait une diminution de 9% des exportations canadiennes, ce qui retrancherait par conséquent 1,5 point de pourcentage à la croissance du PIB canadien. Alors voilà, vous trouverez cet article dans le fil de la presse canadienne. Donald Trump pourrait nuire à l'économie canadienne, croit la Banque nationale. Et pour terminer ce petit bloc de nouvelles du jour, on va se transporter dans les pages du média en ligne Mediapart, un média indépendant français qui fait le point sur le fameux Muslim Ban, le décret anti-migratoire qui vise 7 pays du monde musulman. Alors, je vous lis quelques lignes de cet article publié par Philippe Coste. Malgré la mobilisation qui traverse le pays, les ressortissants du Yémen, de la Libye, du Soudan, de la Somalie, de la Syrie et de l'Iran, déjà soumis à des restrictions en matière de visa, sont toujours refoulés à leur arrivée dans les aéroports américains. Toute entrée de réfugiés est interdite pour 3 mois. L'administration Trump campe sur ses positions. Donc, malgré la forte opposition manifestée contre ce décret unilatéral, l'administration Trump n'en démord pas. C'est ce que nous rapporte Philippe Coste dans cet article qui fait le point sur les derniers jours, ce décret est tombé je crois vendredi et il y a eu de nombreuses réactions. Cet article donc du Mediapart fait le point sur les réactions et cite les interventions des uns et des autres tant à gauche qu'à droite du spectre politique américain. Alors, on va d'ailleurs aller dans les colonnes éditoriales du journal La Presse rapidement. C'est un édito qui est signé Paul Journet et ce décret anti-migratoire, selon Paul Journet, est un cadeau fait aux terroristes. Alors, il explique pourquoi, vous allez voir. Le groupe armé État islamique n'en espérait pas tant. Le président Trump vient de lui envoyer un cadeau du ciel, un formidable argument pour recruter de nouveaux soldats pour Allah. Ce décret suspend jusqu'à nouvel ordre l'accueil de Syriens, suspend pendant 4 mois l'accueil de réfugiés, et il ferme les frontières pendant 3 mois à certains pays musulmans, Irak, Liban, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Même si les détenteurs de cartes vertes pourront encore être admis, ils subiront des contrôles accrus avec l'arbitraire que cela suppose, écrit Paul Journet. La colère du monde musulman ne turlupine pas M. Trump, ni le désarroi de ses alliés. Le président se félicite d'oser cette décision impopulaire qui défend soi-disant l'Amérique d'abord. Le président se félicite de prôner une tolérance zéro, selon lui, au risque d'attentat, dit Paul Journet. Or, le remède qu'il préconise n'est en réalité rien d'autre qu'un poison. Le décret doit bien sûr être dénoncé pour des motifs humanitaires évidents, écrit Paul Journet, ainsi que pour sa mise en œuvre chaotique déjà observée dans les aéroports américains. Mais il y a plus, le décret est aussi tout simplement incohérent. Si l'objectif, écrit Paul Journet, est de protéger les Américains, le choix des pays est étrange. On n'y trouve pas l'Arabie Saoudite, d'où provenait la majorité des kamikazes du 11 septembre 2001. Et il y a un autre pays oublié dans cette liste où sont nés plusieurs auteurs d'attaques, les États-Unis eux-mêmes, dit Paul Journet. Tous les attentats et fusillades sur le sol américain ne proviennent pas de terroristes et tous les terroristes ne proviennent pas de l'étranger. Par exemple, l'auteur de la tuerie de San Bernardino, Syed Rizwan Farouk, était né à Chicago et sa femme a grandi au Pakistan. Donc, un article qui fait la part des choses et qui estime que cette mesure unilatérale mal avisée du président Trump est un cadeau fait aux terroristes. C'est d'ailleurs dans le titre de cet édito, le cadeau au groupe État islamique. C'est sous la plume de Paul Journet dans les colonnes éditoriales du journal La Presse en date d'aujourd'hui, 30 janvier. Alors on s'arrête tout de suite pour aller à l'interview. On a aujourd'hui en interview un sujet beaucoup plus léger, donc on reprend notre souffle. On va parler de YouTube et d'un concours organisé par TFO, la chaîne de services publics ontarienne qui diffuse partout au Canada. C'est un concours amusant qui s'adresse aux jeunes et on a deux des animateurs, des promoteurs de ce concours au bout du fil dans quelques instants. Restez à l'écoute. Vous êtes êtes à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info en fin de journée. Merci d'être à l'écoute. L'émission n'est pas terminée. On s'en va à l'interview. J'ai au bout du fil deux experts de YouTube, des YouTubers qui se spécialisent dans l'aventure et le plein air. Alex et MJ, bonjour.
Bonjour.
Allô.
Alors, en direct de l'Alberta, c'est bien ça?
Oui, présentement à environ 45 minutes d'Edmonton.
D'accord. Et vous y êtes dans le cadre d'un projet organisé par TFO, la chaîne francophone ontarienne qui diffuse partout au pays. C'est un projet de YouTube, justement, qui s'adresse aux jeunes. Est-ce que c'est possible de m'en parler un petit peu?
Oui, en gros, c'est le premier projet de ce type fait au Canada, tant au niveau francophone qu'anglophone. Ça n'a jamais été fait avant. En gros, on se promène dans 6 provinces du pays à la rencontre d'environ 140 élèves d'écoles francophones en milieu minoritaire francophone. Et le but dans tout ça, c'est de les former, de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent eux aussi faire leur propre vidéo à la maison et avoir leur propre chaîne YouTube. Alors nous, on aborde des sujets comme le son, l'éclairage, la caméra, la réalisation, l'animation, etc. Et en bout de ligne, le but, c'est non seulement de leur donner les outils pour le faire, mais aussi en faire une compétition. Fait que parmi toutes les vidéos que les élèves ils vont produire pendant les jours de formation, oui. Ben les 16 meilleures vidéos vont être choisies par les jurys, le jury flip, ainsi que le public. Puis ensuite, on va déterminer un gagnant par ronde d'élimination, si tu veux, qui va gagner un prix, un super prix.
Oui, un super prix. Ils vont gagner un prix d'une valeur de 3 000 $. Puis ça comprend un logiciel de montage, un ordinateur pour le montage, avec le caméra, éclairage, micro, tout ça pour qu'ils soient vraiment prêts puis qu'ils soient capables de continuer leur chaîne YouTube.
Merveilleux. Est-ce que vous trouvez que les jeunes ont ça dans le